Frères et sœurs, ce dimanche 16 mars, c'est le dimanche des rameaux, le dimanche une semaine avant Pâques, qui nous fait entrer dans ce que la tradition appelle la semaine sainte, la semaine qui nous fait vivre le cheminement de Jésus à Jérusalem jusqu'à sa mort sur la croix, puis sa résurrection. Une petite question avant de commencer, petite question pour vous faire entrer dans la méditation. Le dimanche des rameaux est-il un jour de joie ou un jour de tristesse? Là, effectivement, Jésus est acclamé, mais nous savons que sa marche triomphante le conduit à la mort. L'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un âne, c'est une belle image, une lumineuse évocation du règne du Christ. Oui, Jésus est roi, mais on constate que sa royauté ne s'exerce que dans son humilité. Le Messie vient dans le monde, mais son royaume n'est pas de ce monde. Je vous invite pour commencer à ouvrir votre Bible et à lire dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, les versets 9 à 10. Zacharie 9, 9 à 10. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Amen. Zacharie s'exprime ici après le retour de son peuple de captivité à Babylone. Et après ce retour, le peuple de Dieu espérait la restauration d'une royauté comparable à celle de David, en faveur de tout le pays d'Israël. Alors le prophète dit, « La domination de ton roi, fille de Sion, s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. » Voyons se rappeler avec nostalgie l'âge d'or du règne de Salomon. Mais les prophètes ont corrigé peu à peu le visage du Messie, le visage du roi à venir. Et là, Zacharie en ébauche un portrait qui laisse transparaître que ce roi ne sera pas comme les autres. Déjà, il sera juste. Cela sous-entend que toute sa vie sera conforme à la volonté de Dieu. Il sera victorieux aussi. Mais la prophétie précise clairement que ce ne sera pas par l'usage des armes. Oui, il brisera l'arc de guerre. Et littéralement, le texte annonce que ce roi sera sauveur. Sauveur. Mais c'est le nom même de Jésus. Ce roi se manifestera dans l'humilité. Et Zacharie nous dit qu'il sera monté sur un âne, et même sur un tout petit âne. Et enfin, il établira la paix. La paix non seulement pour Israël, mais la paix pour toutes les nations. Alors en tant que chrétiens, nous reconnaissons dans cette prophétie une étonnante préfiguration de Jésus-Christ. Mais pour les contemporains de Zacharie, cette vision restait certainement pleine de mystères. Et les contemporains de Jésus s'y tromperont eux aussi. Ils attendront le roi libérateur, mais oublieront la figure annoncée de l'humble serviteur désarmé. Et nous allons le voir en lisant maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 16. Jean 12, 1 à 16. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors, Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il parla ainsi non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Elle observe cet usage, en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Cependant, une grande foule de Judéens avait appris que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus lui-même, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Les grands prêtres dès lors décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël !» Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. » Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Amen. On le voit à la fin de ce récit, même les disciples de Jésus se méprennent quand ils assistent à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et Jean nous dit que leur intelligence s'ouvrira plus tard, après la mort et la résurrection de leur maître. Il faut avouer que c'est un tel bouleversement pour nos représentations humaines de Dieu de le reconnaître dans cet abaissement. Eh bien, c'est dans cette démarche que le dimanche des rameaux nous invite à entrer. Et dans ce but, l'évangile de Jean nous fait progressivement découvrir ce qu'il appelle la gloire de la croix. À Béthanie, six jours avant la Pâque, de diverses manières, Jésus annonce sa mort prochaine et avec elle, la perspective de sa résurrection. On nous rappelle plusieurs fois dans ce récit la présence auprès de Jésus de Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Vous vous rappelez de Lazare et de cet événement, du retour à la vie de l'ami de Jésus. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et je vous avais déjà dit que quand il évoque Lazare, Jean annonce d'une certaine manière la résurrection de Jésus. En précisant que les grands prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, l'évangéliste nous rappelle le caractère encore provisoire de la vie retrouvée par le frère de Marthe et Marie. La résurrection de Jésus, quant à elle, sera définitive et elle offrira à tous l'espérance de la vie éternelle. Marie se prosterne devant le Seigneur. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Son geste d'humilité annonce ce moment proche où, pendant le dernier repas, ce repas qu'il prendra avec ses disciples juste avant d'être livré, Jésus, nous dira l'évangile de Jean, Jésus les aimera jusqu'à l'extrême en leur lavant les pieds. Mais allons encore plus loin. Marie annonce non seulement l'abaissement, mais encore l'anéantissement du Fils de Dieu. Jésus l'explique, elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. Elle annonce la mort et la mise au tombeau de son Seigneur. Enfin, notre récit fait allusion au triste rôle que prochainement jouera Judas. Il est celui-là même qui livrera Jésus. Et pourtant, l'évangéliste précise qu'il demeure l'un de ses disciples. Le péché de Judas n'implique pas son rejet. Pour Jésus, il continue à faire partie des siens. Alors comme Marthe, nous avons de multiples occupations. Même dans ces périodes où nous sommes obligés de nous freiner un petit peu et de rester à la maison. Comme Judas, il nous arrive de trahir Jésus par nos comportements ou par nos paroles. Comme les chefs des Juifs, la jalousie empoisonne nos existences. Entrons dans les célébrations de Pâques en adoptant l'attitude de Marie. Elle accueille comme un don l'amour du Christ. Jésus a été trahi par Judas. Jésus a été livré à la mort par les chefs des Juifs. Jésus a été enseveli. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Et Jésus lui-même est sorti du tombeau. Et c'est pour nous maintenant qu'il est vivant. Tressaille donc d'allégresse, fille de Sion. Vivons dans la reconnaissance en offrant nos vies au Seigneur. Elles valent bien plus à ses yeux qu'un parfum de grand prix. La semaine prochaine, toujours confinés, nous fêterons Pâques et la joie de la résurrection. Auparavant, il nous faudra comprendre que la victoire de Jésus sur la mort n'a rien d'un événement légendaire ou mythologique. Elle s'enracine dans une histoire concrète de haine, de trahison, de souffrance et de mort. Jésus ne sauve pas de loin. Voici que ton roi s'avance vers toi, dit le prophète. Et il faut s'en souvenir quand tant de personnes autour de nous sont frappées par l'épreuve, par l'épidémie, par la solitude. Ton roi s'avance vers toi. Jésus entre dans Jérusalem, acclamé comme un roi. Il y mourra comme un esclave ou comme un bandit. Il y ressuscitera comme le Seigneur. Et tout cela est préfiguré dans ce tableau qui nous dépeint Jésus acclamé par la foule et monté sur un âne. Il est le roi serviteur. Il est le Messie souffrant du Dieu d'Israël, celui qui a pris sur lui nos maladies et nos péchés. Dans ce récit, vous l'avez certainement remarqué, il est un personnage qui joue un rôle essentiel. Un personnage très sympathique. Ce personnage, c'est l'âne. L'âne joue un rôle essentiel. Il évoque ce petit âne, l'un des aspects les plus importants de la révélation chrétienne, qui est l'humilité de Dieu, l'humilité de Dieu. Dans sa discrétion, le petit âne illustre ce que Paul évoque dans l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Jésus-Christ est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Frères et sœurs, Dieu n'écrase pas, il se livre. Dieu ne domine pas, il s'agenouille. Dieu ne condamne pas, il sauve. Dieu n'est pas loin, il est tout proche. L'âne annonce l'abaissement suprême. Il conduit Jésus à l'ensevelissement du tombeau. Mais nous savons, et nous nous en réjouissons, nous croyons que c'est en partageant notre mort que Jésus nous donnera sa vie. Amen.